L'innovation applique ce que l'invention a modélisé. Donc, il y a déjà des gens qui ont inventé des choses, qui ont théorisé des choses, qui ont mis des choses en place sur un plan étudié, théorique, etc. Et puis, il y a des gens qui se disent « Ok, génial, ça, on va l'appliquer. » Et l'application performante d'une invention, c'est l'innovation.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafont, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Bonjour Patrick, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. Comment ça va ?
Ben écoute, ça va très très bien. Merci Louis de m'avoir accueilli sur ce podcast. Voilà. Je suis désolé d'être un peu en retard parce que vous ne le savez pas, mais je suis un tout petit peu en retard. Étant parisien, on est soumis aux aléas de nos transports en commun et même quand il n'y a pas de grève, il y a des problèmes. Et
effectivement, on est à Paris sans surprise. Le sujet du jour, c'est innovation managériale, bullshit ou réelles attentes des salariés. La première fois qu'on s'est eu au téléphone, tu m'as dit « je ne sais pas si je suis dans ta cible ». J'ai un avis assez tranché sur le sujet.
Tout à fait, j'avoue.
Ça annonce un épisode haut en couleur. Déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Quel est ton parcours?
Et c'est compliqué parce que j'ai fait beaucoup de choses et on a peu de temps, on a qu'une petite heure sur ce podcast et j'ai tendance à parler beaucoup. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire Patrick, là il faut que tu te... c'est bon, on va me recentrer, on va me recadrer. J'ai pas d'ego sur le sujet, mais j'ai tendance à parler beaucoup et à déborder. Alors mon parcours, il est simple, hein. J'ai une formation à l'origine qui est une formation strictement informatique. Et je me suis, parce que j'étais un fan d'informatique quand j'étais jeune, je commence déjà à entrer dans des détails d'il y a près de 40 ans. J'ai créé avec un ami le premier club micro-informatique dans un lycée en France et il n'y avait rien qui existait. Donc, c'est te dire à quand ça remonte. Et moi, je baigne dans le digital, dans l'informatique, dans les datas, dans la programmation, dans le reste depuis l'âge de 17 ans, à une époque où il n'y avait que deux métiers dans l'informatique, analyste et programmeur. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu que les analystes et les programmeurs, c'était des gars qui ne gagnaient pas leur vie. Par contre, le commercial qui s'occupait de vendre ces solutions-là, lui, il vivait très bien. J'avais de gros besoins à l'époque et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous dans la technologie ? Passe dans la vente et donc je suis devenu vendeur, créateur de solutions. Bon, là, je passe toute cette époque. Là, je vais passer d'un coup 15 ans et je suis rentré dans une très grosse structure de distribution de matériel informatique. On pesait plus de 30% du chiffre d'affaires de Compaq, IBM et HP dans les grands comptes. Donc, on était trapus. Mmh. Okay. Et là, j'ai réalisé que les SS2I arrivaient à vendre du service, alors que, enfin les ESN maintenant, les SS2I à l'époque, c'est vous dire l'âge que je peux avoir, et les ESN gagnaient beaucoup d'argent sur le service et nous on n'y arrivait pas, alors qu'on était leader sur notre marché qui était le hardware. Et je me suis dit, va voir ce qui se passe dans les ESN. Donc je suis allé voir ce qui se passe dans les ESN, j'y suis resté quelques années, j'ai managé, j'ai recruté, donc j'ai fait beaucoup de recrutement, j'ai recruté... 20-30 personnes par mois minimum, donc c'est énorme, c'est énorme, et puis ça veut dire autant de CV à dépioter, etc. Donc j'avais développé des mécaniques qui me permettaient de recruter à l'époque déjà des profils très atypiques. C'est comme ça que j'ai placé par exemple un docteur en robotique pour piloter des développements web, des migrations COBOL web dans une très grosse centrale de réservation de billets internationaux. Il y avait Air France derrière qui voulait que des centraliens. Ils ont un peu halluciné et le gars, il a très bien vécu là-dedans. Et ensuite, j'ai vu que ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis placé chez un de mes clients de l'époque. J'ai divisé mon salaire par 3, mais j'étais très satisfait de ça. Donc, je suis passé du côté lumineux de la force. Je suis venu du côté obscur pour passer du côté lumineux de la force. Et puis à la suite de ça, je suis rentré de plein pied dans le retail. Et pour ne pas perdre mes compétences et mes... Et toutes les techniques que j'ai mises en place en matière de vente, de suivi de projet, de management et de recrutement, j'ai continué à faire ces métiers-là en parallèle, en prestations externes, en consulting. Et je suis tombé très tôt dans les réseaux et médias sociaux, puisqu'il y a plus de 15 ans maintenant, on avait avec un ami qui s'appelle Eric Hirschkorn, qui s'appelle toujours d'ailleurs Eric Hirschkorn, qui était retraité maintenant et qui était consultant senior chez Capgemini. On avait écrit un ouvrage qui s'appelle Business Social Networking. On avait théorisé, il y a plus de 10 ans, 10, 12 ans, 15 ans maintenant, ce qui est devenu maintenant le social selling, donc l'usage business des réseaux et des médias sociaux, aussi bien pour le recrutement, le management, le suivi, la prospection, etc., etc. Voilà.
Ok, ouais, effectivement, tu es beaucoup présent sur LinkedIn et tes sujets de prédiction, c'est le management, le recrutement. Et aujourd'hui, si on enchaîne sur le sujet qui nous intéresse, on va faire un peu de contexte et un peu d'histoire. Quels sont pour toi les modèles managériaux qui se sont un peu succédés historiquement ?
Alors là, j'ai pris des notes parce que je n'ai pas tout en tête. Hein. Je ne suis pas un théoricien du management. Donc, avant les méthodes, les modèles modernes, tous ceux qu'on connaît depuis des années, des dizaines d'années, il y a eu plusieurs approches au fil des siècles parce qu'il a toujours fallu qu'on manage des gens. Donc, il y a l'approche artisanale du management qui est basée sur les compétences techniques et les connaissances acquises par l'expérience personnelle. Ça, c'est alors très, très, très loin. Après, il y a l'approche féodale basée sur la hiérarchie et la loyauté envers le seigneur. Le seigneur, le chef territorial, ça c'est l'approche féodale, hein. On la connaît bien, hein. Ça a donné les seigneurs, les serfs, etc., etc. Donc c'était pas non plus un modèle de management extraordinaire. D'ailleurs, on a eu une révolution en France, il y a eu des choses qui se sont passées après. Après, il y a eu l'approche mercantile, parce qu'il faut bien se rappeler quand même que même si je fais des raccourcis historiques ultra rapides, la Révolution française a quand même été pilotée par la bourgeoisie qui gagnait beaucoup d'argent mais qui n'avait aucune reconnaissance et qui voulait avoir de la reconnaissance. Donc l'ego, on en parlera tout au fil de mon intervention, c'est le mal absolu du management, de la gestion et du reste. L'ego, c'est pas bon. C'est bon quand on est... C'est bon quand on est un chasseur-cueilleur et qu'on risque de se faire bouffer par un ennemi qui vient essayer de piller nos denrées et nos réserves, mais on est dans un monde moderne où l'ego est plus néfaste qu'autre chose. Ouais. Donc après, il y a eu l'approche mercantile, fondée sur les principes du commerce et de la comptabilité pour maximiser les profits, parce qu'on a réalisé qu'on pouvait améliorer tout ça. Après, il y a eu l'approche industrielle, basée sur la division du travail et la spécialisation pour améliorer l'efficacité et la productivité. Et notamment, on connaît bien ça avec Henry Ford et sa façon de fabriquer les voitures de façon très, très industrielle. Je me souviens toujours de cette phrase qui disait « Vous pouvez avoir n'importe quelle couleur pour une Ford T à condition que vous choisissiez le noir. » Voilà, donc c'était vraiment surindustrialisé. Après, depuis 1911, on a eu plein de modèles. Alors là, c'est open bar, il y a eu le modèle scientifique de Taylor, le taylorisme, qui est fondé sur l'optimisation de la productivité, analyse scientifique du travail. On a bien regardé comment ça fonctionnait, on a essayé de dupliquer, le modéliser pour pouvoir l'étendre à d'autres. Il n'y a plus que Ford qui était capable de faire ça. Maintenant, de plus en plus de gens d'entreprises ont été amenés à le faire. Et puis il y a eu Fayol après, qui met l'accent sur les principes de gestion et sur les fonctions administratives. C'est l'avènement un petit peu de l'importance des moyens supports. Et plus simplement des moyens de production et des moyens de vente. La théorie classique, ça c'est les années 20-40, hein, qui vise à maximiser l'efficacité et l'efficience en centralisant les décisions et en hiérarchisant les tâches. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, c'est là qu'on le réalise et qu'on le modélise réellement. Après, dans les années 60-70, et ça va de pair avec l'évolution de la société, on a un modèle humaniste qui met l'accent sur les besoins et les motivations des employés, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. C'était un peu le flower power même en entreprise. Et ça a été rapidement rattrapé en 80 par un modèle qui considère l'entreprise comme un système global et interconnecté. Et là, on a vu intervenir une chose qui est, je fais un petit aparté, mais qui est très importante, c'est la migration du rôle du dirigeant en entreprise, qui était un dirigeant paternaliste, souvent d'ailleurs des dirigeants fondateurs avec des familles industrielles derrière. Et dans les années 80, les actionnaires ont réalisé que un patron qui s'occupait bien des salariés, c'était bien, mais qui s'occupait bien de ses actionnaires, c'était mieux. Donc, qu'ont fait les actionnaires des années 80 ? Ils ont commencé à surpayer les patrons, à créer des holdings dans lesquels ils les mettaient pour les dissocier du reste de l'entreprise. Et il y a plein d'études comportementales et sociologiques sur le sujet. Plus vous êtes loin de quelqu'un sur le plan social, culturel et autres, et moins vous avez d'empathie pour lui. Donc, on a vu arriver avec les années 80 des gens qui gagnaient 5, 10, 15, 20 fois le salaire le plus bas de l'entreprise, voire le salaire moyen. Et qui était très orienté vers le profit et l'actionnariat, indépendamment du bien-être et de la volonté des salariés de progresser en interne. Le salarié, c'était une machine comme une autre. Et ça, c'est le tournant vraiment des années 80. Et en 90, on a un modèle qui arrive et qui se concentre sur la flexibilité, la rapidité de réponse et la collaboration pour gérer tout ce qui est incertitude et changement rapide, parce que ce sont des années de changement rapide. Donc il ne faut pas oublier que le management est calé sur les phénomènes sociétaux, et les phénomènes sociétaux ont beaucoup bougé, bougent de plus en plus vite. Donc au début, je remonte, à l'époque féodale, etc., ça a mis des siècles avant d'évoluer. Maintenant, c'est tous les 10-15 ans, on a un nouveau modèle, parce que tous les 10-15 ans, la société change. Et la société maintenant change plus vite que le management, et on a un vrai souci. Pour prendre un parallèle, dans l'IT, à une époque, l'informatique performante, elle était dans les laboratoires, puis elle est arrivée dans les entreprises, et puis après, elle a commencé à toucher le particulier. Maintenant, vous avez chez vous des setups, pour ceux qui savent de quoi je parle, vous avez des setups qui sont 10 fois plus performants que l'ordinateur qu'a du mal à vous payer votre entreprise, qui est déjà obsolète dès qu'il arrive. La technologie, elle est plus maintenant chez le particulier que dans l'entreprise, eh bien le management, c'est également le cas. Maintenant, il est plus au niveau de la société et du particulier, de l'individu, que dans l'entreprise. On manage de façon plus humaine des associations, des groupes de potes, de sa famille, que l'entreprise ne le fait. Et on a un vrai changement de paradigme qui a eu lieu donc très récemment. Et donc, ce modèle qui gère les incertitudes et les changements rapides, les incertitudes maintenant et les changements sont tellement rapides et les incertitudes sont tellement fortes que l'entreprise, elle est complètement à la rue, le management aussi. On l'a vu avec la crise Covid, on raccroche les wagons comme on peut.
Ok, bah, super intéressant. Et pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que ce serait un problème d'agilité selon toi des entreprises qui ne s'adaptent pas assez vite ?
Oui. Oui, oui, complètement. Ouais. Je reviens sur les modèles de 80-90, c'est le modèle par process, gestion basée sur les principes, qui reste malheureusement populaire, mais depuis, en Occident, on a mis en place plusieurs modèles de management qui coexistent, et le modèle le plus populaire et le plus influent, c'est le modèle agile. Okay. Donc on se concentre sur la satisfaction des clients, l'amélioration continue, la mise en œuvre rapide des solutions. Donc oui, ça c'est le modèle agile, c'est la théorie. On aimerait que ce soit comme ça. Le principal défaut du management agile, c'est qu'il se heurte à la formidable inertie des systèmes déjà présents. Et on se fait rattraper par ces systèmes dès que l'entreprise devient normale. C'est-à-dire dès que ça se stabilise, dès qu'on passe de la start-up à l'ETI, de l'ETI au grand groupe, et bien là, l'agilité, elle n'a plus de sens. Parce qu'en fait, on crée des hiérarchies, il faut que la hiérarchie justifie sa propre existence en étant... hiérarchique, tout bêtement. Donc on perd l'agilité, et moi j'entends souvent des grands patrons d'ETI qui me disent moi je veux travailler selon le modèle agile. J'ai dit ok, le modèle agile c'est itération rapide, c'est test, learn, machin, on apprend, on repart, etc. Est-ce que t'es prêt à faire ça? Ah oui, je suis prêt. Ben, en pratique non, il n'est pas prêt, parce qu'il faut lui se remettre en question, il faut remettre son système financier en question, sa DRH, tout ça, et tous ces gens-là ne sont pas agiles. Les gens à qui on demande de l'agilité, c'est qui? C'est les gens sur lesquels on veut mettre un coup de pression. C'est-à-dire, si on est dans une entreprise traditionnelle, c'est les commerciaux. Il faut que le commercial soit agile. Le reste ne l'est pas. Donc, comment peut-on manager des gens qui, d'un côté, doivent être agiles, de l'autre côté, surtout ne rien toucher? Ben, ça ne marche pas. Et là, on se heurte vraiment à cette espèce de conflit, de biais, de dissonance cognitive qui existe entre le management, la volonté d'atteindre l'agilité, et la réalité du terrain qui fait qu'on recrute des gens qui n'ont pas vécu dans l'agilité. Quand vous recrutez un gars qui a fait une grande école de commerce et qui a fait 15 ans de finance, qui débarque dans une entreprise à qui on dit « gars, il faut que tu deviennes agile, il faut que tu sois agile », à part faire de la danse classique et des entrechats, il ne voit pas ce que c'est que l'agilité. Et je le comprends. Il n'a pas été formé pour, ça fait 15 ans qu'il ne le fait pas. Il ne va pas d'un claquement de doigts devenir agile, quoi.
Ouais, c'est clair. Et il y a quand même des tentatives en termes de management aujourd'hui qui se mettent en place. On parle beaucoup d'innovation managériale. De quoi parle-t-on quand on parle d'innovation managériale ?
Alors, on parle d'approche, de méthode et d'outils.
Ok.
D'accord ? Il y a beaucoup de gens confondent invention et innovation. L'innovation, c'est ce qui s'applique à ce que... L'innovation applique ce que l'invention a modélisé. Donc l'innovation, il y a déjà des gens qui ont inventé des choses, qui ont théorisé des choses, qui ont mis des choses en place sur un plan étudié, théorique, etc. Et puis il y a des gens qui se disent « Ok, génial, ça, on va l'appliquer. » Et l'application performante d'une invention, c'est l'innovation. Voilà. Moi, je m'appelle Tim Berners-Lee, j'invente Internet. Je l'invente dans mon laboratoire, je crois que c'est au CERN ou je ne sais plus où, on est 14 à l'utiliser, c'est magique. Puis un jour, il y a un gars qui dit « Oh, génial !» Et si on le mettait à disposition du grand public, et on va se caler ça. Et ça devient une innovation.
Okay.
Voilà. ChatGPT est une innovation, qui est basé sur des inventions qui ont été réalisées par Google, qui n'a pas pensé à innover en scalant et en le mettant à disposition du grand public. C'est aussi con que ça. Là, on est en plein dans le dans ce qui se passe actuellement. Désolé pour le « c'est aussi bête que ça ». C'est sorti tout seul. Peut-être qu'on pourra le couper au montage.
On ne coupe pas.
On ne coupe pas. D'accord. D'accord, d'accord. Donc voilà, on est ça. Alors, l'innovation managériale, c'est quoi ? Elles essaient d'améliorer l'efficacité, la productivité, la performance de l'entreprise. Mais une entreprise efficace, performante et hautement productive ne se sent pas concernée parce qu'elle est déjà dans ce cas-là. Et souvent, on ressent le besoin d'innover quand il est trop tard. C'est-à-dire une entreprise qui est sous l'eau, qui n'atteint plus ses objectifs, se dit « Ah là, il faudrait vraiment qu'on s'améliore et qu'on change ». Ce n'est pas le moment, gars. Là, tu dois sauver les meubles. C'est-à-dire on ne construit pas un bateau super profilé pour aller sur l'eau au moment où le sien, qui est carré et moche, est en train de couler. C'est un peu trop tard. On se dit, OK, je mets en place une structure de folie. J'en aurais peut-être pas besoin parce que ça marchera peut-être. Mais si par hasard, ça ne marche pas, je suis sizé, j'ai la bonne taille pour foncer et avancer. Voilà.
OK, donc une stratégie d'innovation managériale, ce que tu dis, c'est que ça se prépare, ça s'anticipe et ce n'est pas dans la réaction. En fait.
Non, 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 surtout pas. Ben, si c'est dans la réaction, ça peut marcher. Il y a des exemples.
Ouais.
Et puis, tout ce qui n'a pas marché, en général, les exemples, on ne les connaît pas. Mais quand vous apprenez, quand vous avez 3-4 exemples sur une mécanique, dites-vous bien qu'il y a à peu près 50-60 échecs derrière. Donc, quand on vous présente quelque chose qui est extrêmement innovant, qui fonctionne bien et tout, ça veut dire que derrière, il y a énormément de choses qui ne fonctionnent mal. On ne parle pas de quelque chose d'extraordinaire s'il n'y a pas de l'ordinaire qui n'est pas bon derrière. Une innovation managériale qu'on met en avant, dont on dit ouais, « c'est génial, ça fonctionne, c'est bien et tout », c'est qu'elle n'est pas implémentée ailleurs. On ne parle pas des choses qui fonctionnent au quotidien et dont tout le monde s'en fout, en fait. Voilà, tout le monde s'en fout du quotidien. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle d'innovation ? C'est ça qu'il faut se dire. On parle déjà de la digitalisation et de l'automatisation de certaines tâches, la gestion des données, des ressources humaines. Ça, on peut digitaliser, automatiser. C'est l'une des questions, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle qu'on a actuellement en place, je parle de ChatGPT, il y en a d'autres, qui sont capables d'automatiser, digitaliser certaines tâches de façon tout à fait humaine, au sens où l'humain n'est pas très performant sur certains sujets.
Et ça, c'est possible dans le management ?
C'est possible dans le management, en tout cas, c'est possible dans les tâches de l'entreprise, mais quand on automatise ces tâches, on n'a plus besoin de manager pour gérer des tâches automatisées. On a besoin d'opérationnels. Le manager, il peut rester, mais il va commencer à piloter des tâches. Et il y a un gars qui pilote des tâches et puis un manager. C'est un gestionnaire opérationnel. Donc ça, c'est la chose, la première chose qu'il faut se dire. Ensuite, on a les approches agiles. Les nouvelles approches agiles par les principes, qui est un mix un petit peu et qui se concentre entre flexibilité et collaboration pour gérer les incertitudes et les changements rapides. Alors ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que, encore une fois, on parle d'agilité. Donc, il faut que toute la structure soit agile, parce que si vous êtes juste agile dans un coin, ça ne marche pas. Vous avez beau avoir un bras super musclé, si le reste de votre organisme ne fonctionne pas, vous ferez des smashs de fou au tennis, et au bout de 10 minutes, vos jambes ne vous tiendront pas, votre cœur va lâcher, vous serez le meilleur smasher sur one shot, et après, derrière, rien ne va fonctionner. Voilà. Après, il y a la mise en place de nouvelles techno, la blockchain, l'IA, la réalité augmentée, et puis les nouvelles pratiques de... Alors, je ne supporte pas ce mot de gestion des talents, tels que la gestion des talents basée sur les compétences, la gestion du développement du leadership et la gestion du bien-être au travail. Alors, pourquoi j'aime pas talent ? Parce que ça veut dire que maintenant, il y a des talents. Et puis, ceux qui ne sont pas des talents, c'est quoi ? C'est des sous-talents, c'est des nazes, c'est des pas bons, c'est des mauvais. On ne peut pas appeler salarié, on ne peut pas appeler nouvel entrant, on ne peut pas appeler recruté talent. Talent, c'est un sens. Il y a une charge forte derrière. Les mots ont un sens et talent, ça a un sens. Talent, c'est quelqu'un qui a un avantage, qui a un avantage sur la masse. C'est quelqu'un qui est au-dessus du reste. Et là, quand j'entends un DRH ou un membre de ressources humaines dire on améliore la gestion de nos talents, je dis OK, vous améliorez la gestion du top 5, enfin du top 5% de vos collaborateurs qui sont les plus performants. On fait « Ah non, 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 on parle de tout le monde, on n'écarte personne. » Je dis « Ben, si t'écartes personne, c'est pas des talents, c'est des salariés, quoi. Enfin, ils n'ont rien d'extraordinaire. Pourquoi talent ?» Ouais. Ah oui, mais maintenant on dit talent, tu comprends. Non, 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 c'est comme quand on utilise des termes factices pour qualifier des choses qui gênent. Si salarié devient un mot gênant dans l'entreprise, si collaborateur devient un mot gênant, si collègue devient un mot gênant, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'on trouve gênant d'appeler des gens salariés, collaborateurs, et pourquoi on leur donne le nom de talent? Ça, c'est un truc qui m'insupporte. Voilà. Et la gestion des talents basée sur les compétences, moi je me rappelle avoir vu un grand groupe de retail dans le prêt-à-porter il y a 2-3 ans, où j'ai expliqué comment on préparait ces plans de formation sur la gestion des compétences. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un gros tableau Excel. Là, je vais peut-être vous faire découvrir la vie, ceux qui sont dans les RH. Faites un gros tableau Excel, vous mettez le nom des collaborateurs d'un côté, des talents à gauche. Après, vous mettez les compétences nécessaires pour faire fonctionner le service en haut. Et puis, vous demandez à chacun de se noter de 1 à 5. 1, c'est « je connais, j'en ai entendu parler ». 5, c'est « je suis capable de transmettre ça à d'autres en les formant ». Et puis après, il y a toutes les échelles. Il n'y a pas « je suis mauvais » ou « je connais un peu ». Il y a 3, c'est « je maîtrise le sujet tout seul, je peux me débrouiller ». 4, je peux en parler et accompagner des gens. 5, je peux carrément le transmettre et former. Et vous leur demandez de noter de 1 à 5 toutes ces compétences qu'ils ont. Voilà. Et là, vous avez des gens qui sont super compétents sur des sujets qu'ils peuvent transmettre. Donc, vous avez déjà les formateurs de vos futures évolutions. Et puis, vous avez ceux qui sont à 1, 2. Et puis, vous demandez au directeur, au manager, au patron de l'équipe, de quoi tu as besoin. Et on voit qui on peut faire monter. On va plus facilement faire monter un gars qui est à 2 vers du 3 ou du 4 qu'un gars qui est à 1 vers du 4. Mmh. Parce que ça n'a pas de sens. Donc, lui, on va lui faire autre chose. Chacun a des degrés de compétences et on fait ça en mode déclaratif. On demande à chacun de déclarer là où il en est. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière votre plan de formation, il est déjà fait à la fin du remplissage du tableau. Vous n'avez qu'à regarder qui on fait monter vers quoi. Ensuite, ça vous permet d'avoir un panel de compétences dont vous ignorez peut-être l'existence. Vous avez peut-être dans vos développeurs un gars qui est super compétent en management interpersonnel parce qu'il le fait par ailleurs dans une association où il est dirigeant de l'asso, il gère 300 personnes. Ben, ce gars-là, vous pouvez peut-être en faire un futur manager parce qu'il sait déjà le faire. Donc, cherchez pas vos managers, ils sont peut-être déjà là. Voilà. Donc, ce genre de choses, c'est... moi, quand j'explique ça à un responsable RH qui gère des équipes et qui est censé monter des plans de formation... La gestion des talents basée sur les compétences, je tombe des nues. Moi, ce qui me paraît frappé au coin du bon sens, que je traîne dans mes fichiers depuis 10-15 ans, mais il y a encore des gens qui le découvrent. Donc ben voilà, ça me perturbe toujours un peu, moi.
Ouais, donc effectivement, c'est déjà bien connaître notre référentiel déjà de compétences dont on a besoin pour faire évoluer, c'est la première chose. Quelles sont les compétences dont on dispose, et ensuite les stratégies RH qui en découlent pour les compétences qui manquent. Donc,
Exactement. Et c'est tellement interne, simple etc. d'aller demander aux gens, demander à vos salariés ce qu'ils veulent, demandez-leur. Je vais prendre un autre exemple. Il y a une personne qui a été interviewée, je crois que c'est la patronne de la création des programmes de Disney+. Alors vous allez me demander ce que ça vient foutre là, mais bon. Et Disney+ a sorti une série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Ousekine, qui est une série exceptionnelle sur tout ce qui s'est passé autour des événements qui ont trait à Ousekine. Et il fallait parler de cet événement, peu importe l'attitude qu'on a par rapport à ça. Et le réalisateur de ça, il porte le projet depuis très longtemps. Elle a simplement appelé le gars, qui par ailleurs a fait des succès incroyables pour la chaîne dans laquelle il travaillait. En l'occurrence, je crois que c'est Canal+. Mais simplement chez Canal+, personne ne lui avait jamais demandé ce qu'il aurait aimé faire. Elle lui a demandé, t'aimerais faire quoi? Dis-moi ce que t'aimerais faire et moi je te le finance. Et bien on a un superbe transfuge de Canal+ vers Disney+, qui est une sommité de son secteur. Il est reconnu comme un professionnel par tous les autres professionnels et qui est parti simplement parce qu'on lui a posé une question, qu'on l'a écouté et qu'on lui a donné les moyens de le réaliser et que chez lui, personne n'a pensé à lui-même lui poser la question. Demandez à vos salariés ce qu'ils veulent. Demandez à vos collaborateurs ce dont ils ont besoin avant de vous lancer dans des projets de mise en œuvre complexe, de modèles de management, de méthodologie et de recrutement qui ne sont pas sûrs d'aboutir puisque vous ne leur demandez simplement pas ce dont ils ont besoin.
Ouais. Et pour être un peu plus concret sur les innovations managériales, est-ce que tu as des exemples pour nos éditeurs d'une ou deux innovations managériales Ça peut être la semaine de 4 jours, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça peut être...
Moi, la plus grosse innovation managériale de ces dernières années, c'est le télétravail. Le
télétravail, OK.
Voilà. Le télétravail, merci période Covid. Moi, je remercie le Covid pour avoir montré aux entreprises que le télétravail, ben, ça marchait, simplement. Ouais. Déjà, simplement ça, ouais. Parce que ça fait... Il y a plus de 10 ans, j'ai mis en place, oui, j'ai fait beaucoup de métiers différents, j'ai mis en place la Google Suite dans un grand groupe de retail. On était la 6e entreprise en France à le mettre en place à cette échelle-là. Et pourquoi j'ai mis ça en place? Pour permettre... moi, quand je lance un projet, c'est toujours sur un pain point à un moment donné. C'est un point de douleur. J'ai réalisé que mes collègues avaient un problème. On travaillait avec... Il y a beaucoup de gens qui travaillaient à distance avec des portables, etc. Ils devaient se connecter à des VPN. Ça ne marchait jamais. L'informatique était compliquée, etc. J'ai dit, écoutez, on va mettre une solution en place qui va permettre de travailler de façon collaborative. La meilleure, c'est actuellement sur le marché, c'est Google. Tout le monde était à la rue par rapport à ça. Google avait une solution extrêmement simple de partage documentaire, de mail à distance. Tout fonctionnait très bien. Et Microsoft n'avait rien à proposer face à ce truc-là. Et donc, j'ai mis en place ça pour ça. Dans l'idée que les gens puissent travailler de chez eux et arrêtent de devoir repasser au bureau pour vider leur contenu, repasser. Des fois, ils faisaient 200 bornes. On avait des retours au terrain que 5-10 jours après parce qu'il fallait qu'ils rentrent au bureau pour le faire. Et je trouvais ça complètement délirant. Donc, j'ai commencé à mettre ça en place. Et partout, depuis ces 10 dernières années, je m'ingénie à mettre en place des solutions qui permettent d'être autonome par rapport à un lieu physique de l'entreprise. Et ça tombe bien parce que tous les gens que j'ai accompagnés sur toutes ces périodes-là, au moment de la période Covid, quand elle est arrivée, ben, ils ont eu à appuyer très rapidement sur un bouton pour être totalement autonomes. Et tous ceux qui étaient leurs concurrents, que je n'ai malheureusement pas forcément accompagnés, hein, désolé pour vous les gars, se sont retrouvés à avoir une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois et demi de retard pour rattraper rapidement tout ce qui leur permettait de fonctionner. Donc, le télétravail, c'est la plus grosse innovation managériale de ces dernières années et surtout sa mise en œuvre. Parce que ça existe, mais sa mise en œuvre de façon massive. Ça a permis deux choses. Ça a permis déjà de réaliser qu'il y a des gens qui, dans les strates hiérarchiques, ne servaient à rien, qui étaient juste des freins. Et là, on s'est aperçu qu'ils étaient des freins parce qu'en télétravail... vous appelez pas le gars qui appelle le gars et qui appelle le gars, vous appelez le gars qui fait, parce que vous avez besoin que ça aille vite. Et ensuite, on s'est aperçu aussi que le temps de transport, c'était un temps qui pouvait être consacré à la productivité. Alors, au début, les collaborateurs se sont levés, comme d'habitude, à 7h, 6h, 8h, selon les gars. Et puis, du coup, ils ont rajouté 1h, 1h30, 2h de travail supplémentaire dans l'entreprise. Ils ont réinjecté, ce qui a permis de compenser l'effet crise. Et puis après, ils se sont rapidement modulés. Mais on s'est aperçu qu'on avait des collaborateurs bien plus performants. Toutes les études le disent, plus performants, plus efficaces. Des systèmes de transmission d'informations et d'agilité informationnelle qui étaient très élevés. Donc, ça correspond à tous les critères d'un bon management, tout ça.
Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La semaine de 4 heures, de 4 jours,
4 heures,
là, j'entends. Non, mais ça me fait penser au bouquin, je crois que c'est Tim Ferriss qui l'avait écrit, la semaine de 4 heures. Voilà. La semaine de 4 jours, en fait, moi, j'ai très longtemps été, et je suis encore favorable au contrat de travail en forfait jour. Le contrat de travail en forfait jour, il est équilibré et c'est souvent des contrats de travail cadre. Et il faut arrêter de dire que le cadre n'a pas d'horaire. Le cadre a des horaires, on lui paye ses heures sup, ça existe, il faut que vous en soyez tous conscients et que tout le reste, c'est du bullshit. Pardonnez-moi encore l'expression, mais franchement, lisez vos conventions collectives, lisez le code du travail, vous êtes piloté par ça. La moindre des choses, c'est de s'informer soi-même. Tout est disponible, tout est gratuit, tout est en ligne. Et en fait, on s'aperçoit que y a des gens qui ont des capacités de travail qui sont supérieures à d'autres, simplement parce qu'ils sont plus efficaces, plus intelligents, plus performants sur un sujet donné. D'autres qui ont besoin d'avoir plus de temps pour faire des choses correctement et en fonction des choses. Donc, c'est vrai que la semaine de 4 jours est juste là pour modéliser le fait de l'existence de ces différences. La semaine de 4 jours n'interdit pas aux gens de travailler 5 jours. Simplement, elle permet à ceux qui font en 4 jours le boulot de leurs collègues qui, eux, ne le font qu'en 5 jours, voire en 6, de ne pas être considérés comme des pestiférés. Voilà. Moi, j'ai connu des collaborateurs dans les entreprises qui passaient une partie de leur temps à faire du faux travail pour pouvoir être, et là, vous ne voyez pas mes petits doigts qui font des guillemets, mais pour ne pas être mis au banc de leurs collègues parce qu'ils travaillaient beaucoup plus. Je me souviens d'une assistante achat qui, en 2 jours, avait fini son travail de la semaine et qui, elle, partait toujours pile à l'heure, arrivait pile à l'heure le matin, qui était déjà vue comme une pestiférée. Moi, je savais qu'elle finissait au bout de 2 jours, puisque dans le cadre du processus de déploiement des solutions collaboratives, je lui avais mis à disposition des outils. Et elle passait une partie de son temps à faire rien, mais à le faire de façon convaincante. Et j'ai dit, c'est pas possible. Bon, elle était employée, donc elle était non cadre, donc elle ne pouvait pas partir plus tôt, etc. Mais elle partait pile à l'heure. Elle était déjà regardée très bien. Les gens ne sont pas tous pareils dans l'entreprise, donc on ne doit pas les traiter tous de la même façon. La semaine de 4 jours permet de faire ce genre de choses. Et surtout, permet de faire réaliser une entreprise qu'elle est performante et devrait montrer aux autres que si elle n'y arrive pas, c'est qu'elles ont un problème de performance.
Et au final, est-ce qu'on ne rentre pas aussi dans une ère où on est plus en phase avec les attentes des salariés ? Est-ce qu'on prend aussi en considération ce qu'ils veulent ? Et est-ce que c'est ça aussi l'innovation managériale ?
Oui, alors je vous garderai pour la fin du podcast. Moi, j'ai une marotte en matière d'innovation managériale. J'ai une marotte. En fait, cette marotte, elle a un nom, c'est une personne que 90% d'entre vous ne connaissent pas et qui, j'espère, après ce podcast, va être plus connue parce qu'elle le mérite franchement. Mais on est plus à l'écoute des salariés. Mais on n'est pas à l'écoute des salariés sur leur principale préoccupation. La principale préoccupation des salariés, c'est l'argent. L'argent, parce que ils ont tous, quand vous faites toutes les études que vous faites, la principale demande des salariés collaborateurs, notamment en France, mais également dans le reste du monde, c'est une meilleure rémunération. Ce sujet est tellement tabou dans les entreprises qu'elles décorrèlent même les demandes du sujet de l'entretien annuel. L'entretien annuel va se faire à telle date, t'es gentil, mais on ne parle pas d'augmentation de salaire, on en parlera dans 3 mois au moment où on va négocier le sujet et tout. C'est tellement délirant que je ne sais même pas comment, j'évite maintenant d'en parler, tellement je trouve ça délirant. J'ai vu des études internes d'entreprises dans lesquelles les entreprises mettent la notion du salaire dans d'autres thématiques pour que la thématique dans laquelle il y a le salaire arrive en deuxième position derrière, par exemple, la thématique de la communication. Pour qu'on puisse dire, voilà, le principal problème des collaborateurs, c'est la communication descendante. Il faut qu'elle s'améliore parce que cet item a tant de réponses positives. On a 80%. L'item dans lequel il y a le salaire, ils ont glissé dedans, par exemple, aussi tout ce qui est mutuel, avantages sociaux, etc., où les gens disent « Ouais, je suis content de la mutuelle, je suis content de l'avantage social, etc., mais je ne suis pas content du tout de la rémunération. » Mais c'est pondéré. Et du coup, elle apparaît en deuxième étape. J'aimerais aussi que tu supprimes les « du coup » parce que j'essaie de me battre contre les « du coup », mais j'en sors beaucoup. Donc, si tu peux les couper au montage, ça serait bien. Et merci de ne pas les compter pour ceux qui écoutent, parce que j'ai tendance à en dire pas mal et j'ai horreur de ça. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, la vraie première demande, c'est la meilleure rémunération. Après, la deuxième demande, depuis quelque temps, les salariés, c'est simple, c'est plus de télétravail. Quand j'entends des entreprises, notamment certains grands cabinets d'avocats qui ont dit, ou certaines grandes sociétés de boîtes de com qui ont dit à la fin du Covid, on siffle, là vous ne me voyez pas siffler, mais vous entendez peut-être ma tentative de sifflement, fin de la récré les gars, maintenant on rentre, vous allez vraiment travailler, comme si avant ils ne travaillaient pas vraiment. Ouais. Je trouve ça tellement 19e siècle, même pas 20e, 19e siècle. Donc voilà, plus de télétravail.
Télétravail qui va avec liberté ou pas ?
Avec reprise du salarié, il faut que je le mette clair dans ma tête. En fait, ça permet au salarié de reprendre la main sur un combo vie professionnelle, vie personnelle. Il reprend la main. Et ça va dans le sens de ces autres demandes qui sont plus de RSE, du RSE non bullshit, du vrai RSE, et plus de déconnexion. Il y a des chiffres, il y a une étude LinkedIn qui dit que 87% des salariés veulent du télétravail au moins la moitié du temps. C'est un chiffre énorme. Quand vous en posez la question aux entreprises, c'est celles qui peuvent le faire, c'est oui, on va essayer de mettre 10, 15, 20% de télétravail. Je vois encore des annonces avec 20% de télétravail, comme si c'était un avantage énorme. 87% demandent des salariés, 20% proposition de l'entreprise. entreprise. Il y a un gap là, c'est énorme. Il y a une étude Qualtrics qui dit deux chiffres importants. 35% des collaborateurs quitteront l'entreprise s'ils sont contraints d'être en présentiel à temps plein. Et 37%, donc la même quantité pratiquement, donc plus d'un tiers, voient leur lieu de travail comme désagréable. Et il y a un spécialiste de l'immobilier, JLL, qui dit qu'à presque la moitié, les salariés considèrent que leur entreprise n'est plus un endroit où il fait bon travailler. Donc, c'est, quelque part, c'est une évidence. Le télétravail, c'est devenu, on sait que ça fonctionne. Il y a eu des études qui ont été publiées par les médias de façon très courte. On sait qu'on est plus productif, plus efficace, plus tout. On ne peut pas revenir en arrière. Il va falloir une génération complète pour revenir en arrière. Je suis moyennement confiant sur le sujet. Maintenant, en matière de récession, on ne peut plus faire abstraction de ce qu'on appelle le DEIB, le DEIB, c'est-à-dire Diversity, Equity, Inclusion, Belonging. Excusez mon accent anglais qui est catastrophique, mais je ne suis pas anglophone. Ça veut dire en gros diversité, équité, inclusion et sentiment d'appartenance. Et quand on entend égalité, ce n'est pas simplement l'égalité professionnelle homme-femme, c'est aussi l'égalité des personnes en situation de handicap physique ou mental, des personnes LGBTQI+, etc., et des profils seniors. Il faut se dire que les handicapés, ceux qui sont en fauteuil roulant, c'est moins de 20% de la population des handicapés. 80% des handicaps sont invisibles. Et si vous dites à votre entreprise « je suis handicapé », et mon médecin du travail me l'a dit il y a trois mois, ne dites jamais à votre entreprise que vous avez un handicap. À un moment donné, il y a une dissonance cognitive qui se fait dans la tête du gars. Handicap dit « pas bon salarié pour moi », et quel que soit son niveau d'humanisme, il va trouver une solution pour soit vous n'allez plus monter, vous n'allez plus avoir de progression, ou alors au pire, on va se débarrasser de vous. Donc les nouveaux salariés veulent ça. Et les profils seniors. Les profils seniors, c'est un vrai sujet. Déjà, ça me concerne, premièrement. Je suis très concerné par le profil senior. Mais d'un autre côté, on demande aux gens de partir à la retraite à 64, 65, 66, 67 ans. Et en moyenne en France, plus de 30% des plus de 55 ans n'ont pas de travail et n'en trouveront pas. Et ils peuvent se bouger comme ils veulent, ils n'en trouveront pas. Je vois mal un cadre opérationnel d'une entreprise du CAC 40 à 56 ans se dire « Ok, je vais faire tout mon possible et je vais devenir serveur dans la restauration ou maçon dans le bâtiment ». Non, parce que c'est des métiers qui s'apprennent, qui mettent longtemps à être efficaces, c'est des métiers manuels, ça ne s'improvise pas. Donc, il va être opérationnel dans 4-5 ans. Mais à quel prix, à quel point ? Donc ça, c'est un vrai sujet. Et après, il y a aussi la déconnexion. La déconnexion, ça, c'est une vraie demande des salariés. Et au Portugal, on a fait un truc très simple. En France, on a dit oui, moi, je vois des entreprises qui disent on demande aux managers de ne pas contacter leurs collaborateurs le vendredi après 17h, ça se fait mal, etc. Il y a des collaborateurs qui envoient des mails. Et quand lundi, tu dis ouais, tu m'as envoyé un mail dimanche, ou qui disent mais tu n'avais pas besoin de me répondre samedi ou dimanche, je te l'ai envoyé, tu aurais pu me répondre lundi. Ben, dans ce cas-là, gars, pourquoi tu l'envoies samedi et dimanche ? Et le Portugal a résolu le truc de façon extrêmement simple en novembre 2021. Les entreprises ne sont plus autorisées à solliciter leurs collaborateurs par email, message, téléphone, en dehors des heures de travail. C'est même pas le vendredi à 17h, c'est la boîte ferme à 18h, à 18h plus personne n'envoie un mail, sinon faute. Et hop, tu vires le manager concerné. On n'a pas cette volonté en France d'imposer au management des règles qui sont dont le non-respect aurait une réaction coercitive derrière. On n'a pas cette volonté. Donc, on a un vrai sujet là-dessus. Et les salariés le sentent bien. Ils sentent bien qu'ils ne sont pas en position d'équilibre, de compréhension par rapport à l'entreprise. Et dès qu'ils ont le pouvoir, par exemple, métier contraint, etc., ils font des trucs délirants. Mais ils se lâchent. Ils se lâchent. Voilà, on voit maintenant dans les recrutements, il y a Welcome to the Jungle qui faisait une petite liste il y a quelques temps sur quelles sont les demandes loufoques des collaborateurs. Il y a un collaborateur qui a dit « Moi, vous me recrutez pour le RSE, vous êtes gentil, mais moi, je veux un véhicule électrique. » On la regarde très bien en disant « Non, attendez, des véhicules, c'est diesel pour nous déjà. » Et ensuite, l'hybride, c'est uniquement pour le top management, l'électrique, vous imaginez pas quoi. Moi, je suis RSE, je roule pas en électrique, mais quelle image je donne à l'extérieur ? Et vis-à-vis des autres collaborateurs, il a fini par l'avoir. Et puis, il y a des stars. Maintenant, ça fait des années qu'on a des agents de développeurs, comme on a des agents de joueurs de football, où vous avez des développeurs qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois avec un agent qui gère leurs besoins. Bon, là, on tombe sur l'équivalent Coupe du Monde, l'équivalent, le top 10 des développeurs mondiaux. Mais c'est de plus en plus le cas. Il y a de telles fortes demandes maintenant que ce genre arrive. Et dans le même article de Welcome to the Jungle, on avait un directeur commercial. Une boîte avait besoin d'un directeur commercial. Ils se sont lancés chez un gros éditeur du marché. Ils ont pris un jeune en se disant ça va. Le gars a dit ok, moi je veux 300K, 50 en variable, 50 en fixe. Le DRH qu'il a recruté, il était halluciné parce que lui, dans le meilleur des cas, c'était 170K, donc bien pratiquement la moitié, et plus de 60% en variable. Donc c'était, on était à des années-lumière de ce que le gars demandait. Il a tout obtenu. Hein. Il a tout obtenu. Quand on a besoin de quelque chose, quand l'entreprise a besoin, elle sait se mettre à niveau. Ouais. Donc ça veut dire quoi comme message? Ça veut dire que le message envoyé aux salariés, c'est en gros, moi entreprise, moi management, je considère que je n'ai pas besoin de vous puisque je ne vous traite pas bien, puisque les gens dont j'ai besoin, je les traite bien. Là, il y a un problème. On a un vrai problème. Voilà. Et là, on arrive sur les mises en place de pratiques de gestion des talents qu'il va falloir étendre à la totalité de l'entreprise.
Ouais. OK. Donc, si je résume, principales attentes des salariés, salaire, télétravail...
Déconnexion et RSE. RSE au sens large, oui, tout à fait.
Du coup, prendre aussi en considération les attentes des salariés.
Oui, et je n'ai même pas parlé des attentes générationnelles. Si on a 5 minutes avant la fin du podcast, j'en parlerai. Mais ouais. Quand on voit qu'à Davos, plus largement de la moitié des patrons présents à Davos disent « Mais comment je manage mes générations Y et Z ?» Comment gars, je viens de te donner les 4 métriques. Là, tu vois. Plus de thunes, une meilleure considération, une politique sociale et sociétale reconnue comme étant favorable à la planète et à l'humanité, et arrêter d'embêter les gars quand ils ont autre chose à faire que travailler. Ouais. C'est simple. Hein. Ouais. C'est plus facile quand on s'appelle, quand on est une ONG, de recruter des talents, mais là au sens propre du terme, des vrais, des bons, que quand on s'appelle, je sais pas, quand on fabrique des engrais chimiques, ou quand on est une banque qui finance les énergies carbonées, etc. C'est beaucoup plus facile de recruter des jeunes extrêmement performants quand on est dans le bon sens de l'humanité et qu'on essaie de sauver la planète que quand on fait exactement le contraire.
Ouais.
Voilà. Donc, voilà, une bonne politique RSE.
Ok, super intéressant. Du coup, pour finir, quelques recommandations sur ce podcast. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes managers et puis si tu avais une erreur à éviter aussi pour eux?
Alors, avant, je suis désolé. Ah oui, parce que je vais te parler de mon modèle idéal en termes de management, parce que j'ai un modèle idéal en termes de management, et ce modèle s'appelle Marie Parker Follet ou Follette.
Effectivement, voilà. Tu voulais en parler.
Voilà, je voulais en parler. Je suis pas. Heureusement que j'ai pris mes petites notes, hein, parce que là, j'étais prêt à te répondre à ta question. En fait, c'est une pionnière du management moderne et une théoricienne du leadership. Alors, pourquoi vous en avez jamais entendu parler, Marie Parker Follet? Je sais pas si tu connais.
Non, je ne sais pas.
Parce qu'elle avait deux défauts majeurs. Elle était née au 19e siècle et puis c'était une femme, quoi. Une femme au 19e siècle. 19e siècle, c'est 1800, hein, c'est pas 1900. Hein, c'est 1800 et des poussières. Donc, à l'époque, je suis même pas sûr que les entreprises avaient le gaz ou même l'électricité à tous les étages. Et ce qu'elle a écrit à l'époque, c'était frappé au coin du bon sens. C'était vraiment quelque chose de très... pertinent. Je vais vous donner 4 choses qu'elle a écrites. Hein. Alors, elle est passée sous le radar parce que les rares personnes qui ont parlé de ces théories, c'était des hommes. Comme elle était une femme, donc elle comptait pour du beurre, et malheureusement, c'est encore le cas dans bien des situations à l'époque moderne. Ils se sont appropriés ces idées, ils en ont tiré quelques-unes et ils ne l'ont jamais citée, ils ne l'ont jamais créditée. On a 4 grandes idées qui sont dues à Marie. La participation démocratique. En gros, les employés devraient avoir un rôle actif dans la prise de décision au sein de l'entreprise. Okay. Mais tous les employés demandent ça actuellement. Là, je parle d'un truc qui date du 19e siècle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment on a pendant plus de 2 siècles, pratiquement 2 siècles, enfin, pendant des décennies et des décennies, ignoré des théories qui existaient déjà. La deuxième chose, et c'est encore pire, c'est une communication efficace et claire entre les employeurs et les employés pour résoudre les conflits et encourager la collaboration. C'est-à-dire qu'il se crée actuellement des applications mobiles et des start-up pour mettre en place des outils qui permettent de faire ça, qui permettent de faire des trucs qui ont été théorisés à l'époque de vos arrière-grands-parents. Ouais. Réfléchissez à ça. Arrière-grands-parents. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie, quoi. Ensuite, l'intégration des intérêts. Les intérêts, c'est toutes les parties impliquées, les employeurs, les employés, les clients, sont tous intégrés ensemble pour atteindre un objectif commun. C'est en gros, tout le monde va dans la même direction. Ça, c'est aussi, c'est novateur maintenant, mais à imaginer à l'époque. Et la dernière chose, alors ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la résolution des conflits par la coopération. Il y a des coachs dont c'est le métier depuis 10 ans. Et il y a 30 ans, on en parlait à peine. Je fais une pause parce que là, il y a un bruit infernal, je ne sais pas si on l'entend. Je reprendrai après de parler à peine. Qu'on... Si on ne l'entend pas, c'est bien. Je crois que c'est le... je crois que c'est l'aspirateur dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc, j'attends deux secondes parce que ça, c'est vraiment très important. Tu pourras couper et remettre. Au pire, tu le passeras comme ça et les gens diront, mais waouh, c'est trop du live.
Si je le coupe,
voilà. Donc lui, on sait ce qu'il a fait. Il a pas pris qu'un café.
Côté naturel comme ça.
Voilà. Donc là, alors, je reviens sur le quatrième point très important qu'a mis en place. Enfin, qu'a théorisé Mary Parker Follett, c'est la résolution des conflits par la coopération. Elle dit qu'il faut, de manière positive, encourager la coopération et la collaboration plutôt que la confrontation. Mais c'est tellement moderne. En fait, je vois des publications sur Instagram qui ont des milliers de likes avec des phrases du type « coopérer plutôt que confronter »,« collaborer plutôt que collaboration plutôt que conflit ». Ça marche actuellement sur Insta comme si c'était « waouh, l'idée du siècle ». Oui, mais c'est l'idée du siècle, mais dernier et même d'avant. Voilà. Donc, faites du Mary Parker Follett et vous allez faire passer la vision d'un management de problématique à réussite. Voilà. Alors, mon conseil très simple, hein, tu me demandais tout à l'heure conseil pour les jeunes managers, je reviens, j'en ai deux.
Un conseil, une erreur à éviter.
Alors, j'ai deux conseils.
Lisez
Mary Parker Follett. Alors, c'est en anglais dans le texte, il n'y a pas beaucoup de trucs traduits, mais ça va arriver. Là, plus on en parle, plus ça va arriver. Surtout, formez-vous, les gars. Formez-vous, parce que qui dit jeune manager dit « j'ai pas tout vu, je connais pas tout ». Et un jeune manager, c'est pas un gars qui a 25 ans. Hein. Ça peut être un gars qui a 45 ans, qui n'a jamais managé sa vie et qui, d'un coup, a un poste de responsabilité. C'est un jeune manager. Pour moi, un jeune manager, c'est un manager qui est jeune dans la fonction. J'espère que je parle de la même chose que toi. Et pas forcément quelqu'un qui est jeune dans la vie, mais quelqu'un qui est jeune dans la fonction. Formez-vous. Si vous ne pouvez pas être formé par votre entreprise, parce que souvent, elle oublie... parce qu'elle vous donne ça comme une carotte, comme un petit bonbon, parce qu'elle ne veut pas vous augmenter. Je suis désolé de faire un raccourci un peu rapide, mais formez-vous. Il y a des podcasts extraordinaires. Écoutez le podcast de Louis, déjà. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur le management. Il y a des podcasts disponibles en français et en anglais pour les anglophones. Il y a des bouquins. Formez-vous. Vous n'avez aucune excuse. Le savoir est à disposition. Dans beaucoup de cas, il est gratuit. Formez-vous. L'erreur à éviter, c'est simple. Il y a une seule erreur à éviter et elle est fondamental, c'est ne reproduisez pas les schémas que vous avez subis. Vous avez été managé, vous avez subi des schémas, positifs ou négatifs, peu importe, ne les reproduisez pas. Formez-vous, apprenez, mettez en place vos propres schémas et test and learn. Je teste, je vois que ça marche, je reproduis et surtout vous discutez. Hein, pour revenir à ce que disait Mary Parker Follett, c'est vous coopérez, vous collaborez plutôt que vous confrontez. Voilà.
Ok, super intéressant. Et du coup, on finit toujours par une recommandation de livre ou de contenu, mais je crois que je la connais du coup.
Alors non, j'en ai deux. Ça, tu la vois pas venir. Non, je peux pas dire Mary Parker Follett parce que c'est une tannée à trouver. Il y a beaucoup de choses téléchargeables, mais c'est des textes très théoriques. Mais il doit y avoir des résumés. Le Mary Parker Follett tel qu'on l'applique pour les nuls, etc. Voilà. Mais moi, deux livres, vraiment. En plus, c'est vraiment pas cher. C'est des trucs qui vont vous coûter peut-être 10 euros, etc. Et voilà. Lisez ces deux livres, appliquez-les au quotidien, vous allez devenir un meilleur humain et donc forcément un meilleur manager. Le premier, c'est « Qui a piqué mon fromage ?» C'est un vrai bouquin, c'est un vrai bouquin. « Qui a piqué mon fromage ?» C'est pas le nom en anglais, mais c'est en français, de Spencer Johnson. C'est un livre qui est idéal pour... qui parle de la résistance au changement et de l'inutilité de la résistance au changement. Et vous, en tant que manager, vous ne pouvez pas résister au changement. Vous devez l'accompagner, vous devez le gérer, vous devez aider vos collaborateurs et vos équipes et en management transverse, les autres équipes à mieux accepter le changement parce que le changement, il est partout. On ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas l'anticiper. Donc, je répète, « Qui a piqué mon fromage ?» de Spencer Johnson, Spencer avec deux S. Et ensuite, les 5 accords Toltec de Miguel Ruiz. Et arrêtez de me dire qu'il y en a 4. Non, il y en a bien 5. Il y a les 4 accords Toltec et il en a sorti un cinquième après. Donc, les 5 accords Toltec de Miguel Ruiz. si vous commencez à essayer de les appliquer, notamment le troisième, ne faites pas de suppositions, vous allez voir, ça a l'air simple comme ça, mais c'est une galère à faire au quotidien, mais le jour où vous réussirez à en appliquer un, puis un deuxième, puis un troisième, ben vous serez déjà un meilleur humain. Et quand on est un meilleur humain, on est un meilleur manager. Et quand on met en avant l'écoute, le partage, et qu'on n'a plus peur, parce qu'on réalise que les gens ne sont pas contre nous, mais beaucoup ont plein de bonne volonté et veulent nous aider, qu'on arrête de faire des suppositions, eh bien, on devient un meilleur manager. Donc, les 5 accords Toltec de Miguel Ruiz, commencez d'abord par les 4 accords Toltec et ensuite achetez le 5e. Voilà.
Ok, super, bah merci beaucoup, j'en suis également convaincu.
Alors j'avais juste une petite dernière chose, ouais. J'avais dit que je parlerai à la fin de la façon dont on manage les générations X, Y, Z. Alors il y a des spécificités, j'avais fait un petit post sur LinkedIn, je vous invite à regarder, suivre, machin, le newsletter, cliquer, liker, etc.
Bien sûr, suivez Patrick Barabé sur LinkedIn, voilà. Pour avoir c'est beaucoup de contenu intéressant.
Là je suis en train de faire mon Instagrammeur. en fait, il y a une chose qui est spécifique aux générations Y, c'est l'impact positif que l'entreprise a sur la société et sur l'environnement. On en parlait tout à l'heure. Spécifique aux générations Z, c'est la transparence et l'éthique de l'entreprise. Il faut être transparent et avoir une éthique hors norme. Il faut que l'entreprise puisse faire une différence sur le monde. Consensus entre gènes grecs et génération Y et Z, c'est la flexibilité, le télétravail, l'environnement de travail collaboratif. Et on peut remonter un petit peu au-dessus. Pour les X, on peut intégrer les X dedans. X, Y, c'est équilibre entre vie pro, vie perso et possibilité d'avoir une influence sur la direction de l'entreprise qui, pour eux, est un prérequis. Et là, on rejoint encore une fois Marie Parker Follett qui a malheureusement tout inventé.
Bah, super conclusion. Merci beaucoup, Patrick. J'ai passé un super moment. Écoute, au plaisir de te retrouver sur Génération Management pour peut-être un prochain épisode.
Mais oui, d'autant plus que je vais lire et je vais écouter les autres épisodes puisqu'il y a des gens extrêmement célèbres qui ont été interviewés. Moi, je me sens un peu tout petit là-dedans. Donc, merci encore de m'avoir invité. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment de la journée où vous écoutez ça.
À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.